France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis Lacmé ou Coppelia, vous entendez vraisemblablement des titres qui vous sont familiers et dont vous connaissez sans doute la musique. La musique et même son auteur Léo Delibes. Delibes n'a certes rien d'un compositeur oublié, mais tout d'un musicien méconnu. Méconnu parce que, excepté l'opéra et le ballet précédemment mentionnés, l'essentiel de son œuvre est peu, sinon pas joué. Qui peut en effet spontanément citer Deux vieilles gardes, L'omelette à la folle embûche, Le bœuf à pisse ou La source? Sans doute pas grand monde à part quelques spécialistes du répertoire lyrique ou chorégraphique. C'est pour mieux connaître Delibes, sa vie, son œuvre, son environnement, que Pauline Girard, mon invitée, a entrepris un énorme travail de recherche qui permet de suivre la carrière d'un musicien complet et d'un homme très attachant. Léo Delibes, itinéraire d'un musicien des Bouffes Parisiens à l'Institut, de Pauline Girard, Chevrin. Selon vos références, vous avez pu reconnaître la musique de Beb, le cochon devenu berger, Danny, le chat superstar, ou d'une vingtaine d'autres films. Plus sérieusement, il s'agissait d'un extrait, Pizzicati, du ballet Sylvia de Léo Delibes. L'orchestre symphonique de Londres était dirigé par Anatole Fistoulari. Bonjour Pauline Girard.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef à la Bibliothèque historique de la ville de Paris et auteur donc de cette somme, de ces quelques 400 pages sur Delibes. C'est grâce à votre livre que j'ai appris l'utilisation de cette musique de Sylvia à l'écran. Mais je n'ai pas appris que ça, bien évidemment. Revenons sur le titre itinéraire d'un musicien. Effectivement, votre livre suit un parcours chronologique très détaillé. On a presque l'impression que vous avez rencontré Delibes.
Oui, j'ai essayé de le rencontrer, de le découvrir. Et ce qui était frappant, c'est ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi son évolution sociale, enfin son parcours artistique de musicien, et de voir, sa réussite sociale. Il commence par donner des leçons et il finit à l'institut et il a une fortune personnelle importante.
Ouais, une véritable ascension sociale.
Voilà. Oui.
Peut-être faut-il redonner quelques éléments biographiques. Il naît donc en 1836, près de La Flèche, donc dans la Sarthe, et meurt à Paris en 1891. son père meurt assez rapidement. Il perd son père à 11 ans, je crois.
Oui,
et donc, avec sa mère, ils vont habiter Paris. Il vivra le reste de son existence à Paris. Il intègre très jeune, donc à 12 ans, le conservatoire. Et
oui.
Alors, question un peu banale, mais pourquoi on avait décelé des dispositions musicales? Est-ce que sa mère venait d'un milieu favorable aux arts, à la musique?
En fait, oui, sa mère est la fille d'un chanteur de l'opéra comique. Et son oncle, enfin l'oncle de Delibes, est lui-même professeur au conservatoire, professeur de solfège. Mmh. Et c'est lui, sans doute, qui l'a fait rentrer à 12 ans au conservatoire.
D'accord. Et donc, plus tard, Delibes deviendra professeur au conservatoire, mais son passage comme élève n'a pas été flamboyant.
Non. Il s'en sort avec un premier prix de solfège et un deuxième accessit d'accompagnement. Donc, c'est pas beaucoup et en général, c'est tout.
Il passe pour un élève plutôt intelligent, mais plutôt paresseux également. Il n'a pas l'air de prendre ça avec beaucoup de sérieux, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il a aussi beaucoup d'activités en dehors. Il faut qu'il donne des leçons pour gagner un peu d'argent. Oui, il n'est pas très brillant, pas très scolaire. Voilà.
Alors, si on le resitue dans son époque, donc j'ai dit né en 1836, ça en fait un contemporain de Massenet, de Bizet, de Chabrier.
De Saint-Saëns aussi.
Des compositeurs de cette époque. Je veux pas qu'on raconte sa vie étape par étape parce que c'est pas très radiophonique, mais son évolution est assez rapide comme compositeur. En fait, à peine 20 ans, il compose déjà, il est déjà joué.
Oui, il est déjà joué à 20 ans.
C'est ça. Mais il commence par un répertoire très léger. Beaucoup d'opérettes, d'opéra bouffe. C'est vraiment la marque du premier Delibes.
Oui. En fait, il commence aux Folies Nouvelles, là, le théâtre de Hervé qui est le père de l'opérette.
Oui.
Et après...
C'est un théâtre qui n'existe plus, qui était du côté de la République, c'est ça?
Alors, je ne sais pas si le théâtre de Jazet l'a pas
c'est
remplacé.
C'est ça, oui.
Voilà, c'était là.
D'accord.
Et après, il est joué au Bouffe Parisien dans le théâtre d'Offenbach.
Oui. Voilà. Et alors, est-ce que Pauline Girard, à l'époque, pour un compositeur, commencer justement par le répertoire léger, c'était le meilleur moyen d'apprendre tout simplement son métier de compositeur avec toutes les contraintes que ça peut avoir, de fournir la musique, d'assister aux répétitions, de faire, j'imagine, 100 choses à la fois. Est-ce que c'était une voie naturelle pour un jeune compositeur?
À mon avis, c'est une voie très utile et enfin voilà, à mon avis, il a beaucoup
appris,
très formatrice, mais le risque après pour un compositeur sérieux c'est de se voir cantonné dans le genre de l'opérette et Offenbach qui a fait beaucoup d'opérettes, qui a essayé de redonner ses lettres de noblesse au genre de l'opérette il a beaucoup souffert de pas être pris pour un compositeur sérieux et de pas être joué vraiment à l'opéra comique.
Ouais.
Voilà.
Et donc d'ailleurs vous posez la question dans votre livre, à quel moment est-ce que justement Delibes va vouloir quitter l'univers de l'opéra pour passer pour un compositeur, on va dire sérieux quoi.
Oui, je pense à la fin des années 60 et en fait c'est grâce au ballet qu'il est reconnu comme autre chose qu'un compositeur d'opérette. Mmh. La source, en 1866, c'est important à cet égard. Et surtout Coppelia, qui a un grand succès en 1870. Et à partir de là, il commence à être reconnu comme un compositeur vraiment sérieux.
Par les bruyères, chante aux oiseaux, je suis heureux.
Jacques, courant, par les bruyères, chante aux oiseaux, je suis heureux.
Les arbres ont des mines fières,
les blés ont des airs langoureux,
les muguets me font la gourmette,
les boutons de roses sont faits beaux.
Les boutons d'or se sont fait beaux.
Ah, Jacques.
rêve, revient le cœur tout en fébrile.
Jaco, tournant encore la tête, revient le cœur tout en fébrile.
Il rougit, il tremble, il s'arrête. Un follet m'a donc enivré.
Mais comme la verge en est, je n'ai bu que l'eau du chemin.
C'était un extrait du Roi Ladi de Léo Delibes par Christiane Jacquin et Michel Sénéchal. Pauline Girard, donc on peut se rendre compte à l'écoute de cet extrait donc du Roi Ladi, 1873, un peu du style de la musique de Delibes, une musique, d'ailleurs c'est un qualificatif qui revient assez souvent hein, dans votre livre, musique plutôt facile, agréable, avec du charme, musique française, on peut dire. 1873, cela correspond à plusieurs choses. Il y a d'une part, il y a l'incendie de l'ancien opéra de Paris, qui était salle Le Pelletier. Donc là, c'est une œuvre, le Roi l'a dit, qui était créée à l'opéra comique. Deux années avant, Delibes s'est marié, et apparemment, il a fait un mariage plutôt profitable financièrement.
Oui, il a épousé une héritière. Et d'ailleurs, tous ses amis musiciens et artistes vont le taquiner là-dessus en disant qu'il a épousé un sac. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément pour ces raisons-là qu'il a épousé Ernestine Denain, mais c'est aussi à un moment de sa vie où il a envie de se poser, et c'est plus ou moins un mariage arrangé à travers Alexandre Dumas, fils. Ouais.
Et donc ce mariage lui donne évidemment une aisance financière qui lui permet peut-être aussi de moins courir après les commandes de musique, même si sa carrière musicale évidemment n'est pas interrompue. Peut-être doit-on préciser que parallèlement à cette carrière de compositeur au départ de musique légère, Delibes a été organiste et puis il était engagé à l'Opéra de Paris comme sous-chef de chœur en 1863. Donc on imagine que là aussi, c'est un gros travail quand même. Il fallait être toujours présent au moment des répétitions, dès qu'il y avait des nouvelles œuvres. On imagine une vie quand même très 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 bien remplie.
Oui, une vie bien remplie, oui, parce qu'on voit sur les registres de répétition de l'opéra qu'il est présent l'après-midi, le soir pour les représentations également. Et avant ça, il avait été accompagnateur au Théâtre Lyrique, son mariage lui permet effectivement en 1971
de
s'arrêter.
Quoi,
voilà.
Ouais.
Il quitte son poste à l'opéra et il n'a plus de poste fixe.
Ouais. Et est-ce que du coup, cette aisance financière lui permet peut-être de choisir plus facilement, c'est pas les commandes, les librettistes avec lesquels il collabore, ou au contraire, est-ce que toute sa vie il est resté fidèle à une équipe de collaborateurs? C'est plutôt l'impression que j'ai, parce qu'on voit des noms qui reviennent assez fréquemment parmi ses librettistes. Philippe Gilles notamment,
c'est vrai qu'il avait noué des amitiés avant la guerre, et le Roi l'a dit, c'est Camille Dulocle qui est à ce moment-là directeur de l'Opéra Comique,
qui lui
propose le projet, avec Edmond Gondinet, qui est le librettiste, et donc après il va rester fidèle à Edmond Gondinet et Philippe Gilles. Principalement. Oui.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Pauline Girard, la figure de Jacques Offenbach, qui était quand même à l'époque, qui était de 19 ans, son aîné, je crois, ou un peu plus, une petite vingtaine d'années, on va dire. Quel était le rapport entre les deux? Parce qu'Offenbach était quand même le maître de la musique légère. Delibes, le cadet, arrive. Comment est-ce que...
Je pense qu'au début, Offenbach a soutenu, il était content d'avoir des jeunes compositeurs talentueux. au Bouffe Parisien. Puis après, je pense qu'il y a une sorte de de concurrence,
de rivalité,
et je pense que Delibes trouve qu'il n'est pas suffisamment joué au Bouffe Parisien, ou que à un moment donné, ces opérettes reçoivent moins de lumière que celles d'Offenbach, et donc les rapports n'ont pas toujours été très, j'imagine, au beau fixe. Mais quand même, il y a une fidélité, puisque quand Offenbach meurt, c'est à Delibes que sa veuve demande d'arranger, de faire en sorte que Belle Lurette, la dernière opérette, soit jouable et montée au Théâtre de la Renaissance, je crois.
Et si on veut mettre en parallèle la musique légère, bien sûr, des deux compositeurs, Delibes et Offenbach, est-ce que leurs musiques sont vraiment témoins de leur époque, ou est-ce qu'il y avait comme des caractères propres à chacun des deux compositeurs, et en particulier à celle de Delibes? Est-ce qu'il se démarquait un peu de ce que pouvait être la musique légère de son temps? Est-ce qu'il y a des spécificités dans la musique de Delibes, ou c'est vraiment quelqu'un qui est totalement marqué par son époque?
C'est une question difficile, mais sa musique est originale, et elle est toujours prisée pour son inventivité, sa distinction. Mais est-ce qu'il se démarque vraiment? Elle n'est pas... C'est pas du tout venant comme les vaudevilles. Ouais. Elle a quand même quelque chose qui est déjà vraiment remarqué dès le début.
D'accord. Mais en même temps, ce n'est pas un révolutionnaire.
Ah, pas du tout, non. Non. Il essaye d'inventer dans des cadres traditionnels, en fait, qu'il accepte, de temps en temps, il fait évoluer, mais doucement, quoi. C'est pas du tout un révolutionnaire, non.
La patrie est la même. Tout avia ton secret pouvoir, noble et touchant ton blême. Dans tes plis, je viens de revoir tout un passé que j'aime. Thank you.
Le ténor Julien Bert interprétait un extrait de l'opéra Jean de Nivelle de Léo Delibes. C'est un disque qui vient de paraître tout récemment chez Alpha. Pauline Girard, donc un jeune chanteur qui s'intéresse à Delibes. Est-ce qu'il y a donc des raisons d'espérer pour une sorte de redécouverte de cet immense répertoire dont on a la connaissance grâce à votre travail et aussi cet été lors du festival de Radio France et de Montpellier, Cassia, donc la dernière œuvre inachevée de Delibes. Donc est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de petit frémissement en faveur de cette musique de ce compositeur?
Oui, je pense qu'il sort un petit peu du purgatoire. Il y a une affection pour la musique française du 19e. Mmh.
Oui, un grand mouvement comme général de redécouverte.
Massenet, ouais. Etc. Ouais, ouais. Et voilà, on voit bien que l'Acmé, par exemple, a été quand même reprise récemment à l'Opéra Comique et à Lausanne, à Montpellier.
Ouais, ouais.
Et que c'est une musique qui est appréciée.
Et vous parlez de purgatoire, Pauline Girard, et vous rappelez que lors des grandes commémorations officielles qui sont décidées chaque année, Delibes avait été oublié.
Oui, en 1991, il n'apparaissait pas du tout, alors qu'il y avait des compositeurs, je ne me souviens plus d'ailleurs de leur nom, moins connus,
qui ont fait l'objet
d'une célébration nationale, mais vraiment 1991, c'est le moment où il n'est pas du tout.
C'était vraiment le creux de la vague.
Voilà,
alors, ouais. Et là, donc, on peut espérer que peut-être la vague va remonter.
Oui, oui, oui.
D'accord. Pauline Girard, on a parlé tout à l'heure donc de la carrière de compositeur de musique légère de Delibes, avec toutes ses opérettes, ses opéras bouffes, avec des scénarios. Vous en donnez à chaque fois un résumé très clair. Scénarios totalement abracadabrants, avec des personnages évidemment aux noms comme Fortuné Marcassin, Berthe de Follembûche, Madame von Krogsegg, enfin des noms totalement totalement improbables. Là, c'était vraiment l'esprit du temps, quand même.
Oui, oui, là, c'est vraiment une opérette un peu. Un peu subversive,
ouais,
qui se moque beaucoup, des parodies des opéras, et c'est très drôle, oui.
Alors on a bien compris donc cet itinéraire de Léo Delibes. Donc après ses débuts dans la musique légère, il arrive à être enfin reconnu comme compositeur, on va dire sérieux, l'opéra comique, donc Le Roi l'a dit, Jean de Nivelle. Quel a été ensuite, son parcours? J'ai parlé tout à l'heure de professeur au conservatoire. Le reste de l'évolution, l'itinéraire, puisque le titre de votre livre, Pauline Girard, de Delibes.
Eh bien, en fait, il y a, entre Le Roi l'a dit et Jean de Nivelle, il y a Sylvia, qui est un ballet qui n'a pas énormément de succès, mais qui, pour Delibes, est important parce que c'est une tentative de faire un ballet qui musicalement est vraiment une valeur artistique. C'est une chose à laquelle il tient.
Ouais. J'ai l'impression, en tout cas à la lecture de votre livre, que que Delibes a apporté à la musique de ballet quelque part ses lettres de noblesse.
Oui, oui,
c'est pas seulement une musique d'accompagnement, mais ça devient une écriture orchestrale symphonique de premier ordre, comme celle de Tchaïkovski.
Oui, oui, tout à fait,
et qui s'écoute,
qui peut s'écouter sans voir le ballet, en particulier pour Sylvia.
Mmh.
Voilà. Et donc après, il a du succès à l'Opéra Comique avec Jean de Nivelle, puis avec l'Acmé en 1883. Il devient professeur au conservatoire et il est élu à l'Institut. Voilà, c'est une sorte de couronnement.
Mmh.
Et après l'Acmé en 1883, il y a une sorte de
passage à vide.
En tout cas, il est
moins productif.
Moins productif,
ouais.
Voilà.
Mmh.
Et il prépare pendant des années son dernier opéra, Cassia, qui ne pourra pas achever puisqu'il meurt brusquement. Voilà.
Thank you.
L'orchestre du Covent Garden dirigé par Richard Bonnich, c'était un extrait du ballet La Source de Léo Delibes. Pauline Girard, en quelques mots, Delibes, musicien français évidemment, pris comme tous ses contemporains dans la querelle Wagner pour ou contre, quelle position a-t-il adoptée? On sait qu'en 82 il a assisté à la création de Parsifal.
Il était assez ouvert d'esprit et curieux, donc il rejette pas Wagner. Et Parsifal le touche beaucoup, il paraît qu'il pleure toutes les larmes de son corps. Mais dit qu'il ne faut pas imiter Wagner. Donc il s'efforce de faire autre chose. Et c'est une sorte de... quand même une chose qui le trouble beaucoup à la fin de sa vie, puisque ses élèves en plus sont eux très wagnériens et ils se demandent quelle attitude adopter face à ça. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Pauline Girard. Je rappelle le titre de votre livre, Léo Delibes, Itinéraire d'un musicien des bouffes parisiens à l'Institut, publié chez Vrin. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Manuel Couturier et Laurent Binder, attaché de production Annick Aumier. Sur notre site francemusique.fr, vous pourrez retrouver tous les renseignements relatifs à la programmation musicale de cette émission.
À réécouter sur francemusique.fr.